just before when I went to Scooty, he said, "Yeah, on the Budo for the moment, he feels nothing in the heart. Here, he can feel a lot."
I don't find it.
Ah, écoute juste. On combine la respiration et le Budo. Bien sûr, ça va toujours aller ta concentration sur le troisième œil parce que c'est ce que t'as entraîné. Donc, c'est l'habitude que t'as pris. Mais ça, tu dois revenir en arrière et enlever cet entraînement. À chaque fois que ça va là, tu le remets l'attention ici,
à l'entrée des narines. It's a lazy boy.
Le problème avec ça, c'est que tu n'iras nulle part.
Ça m'a apporté. Je parle au passé.
Ouais.
Ça m'a quand même apporté énormément de calme que je n'avais jamais eu avant.
Le problème, le calme, c'est pas encore l'esprit centré sur un point. Et qu'est-ce que t'apporte le Budo quand tu le pratiques? Ça va t'apporter beaucoup d'agitation.
Je l'oublie parfois. Oui. Je le cite. Des fois, je l'oublie, je reviens. Je l'oublie même pas pour penser à autre chose, mais I love this Budo, Budo.
Tu vois là la difficulté, la différence entre rester avec des sensations et rester vraiment sur un objet qui vraiment pointe sur un. Donc si tu travailles sur le Budo, des fois tu dois vraiment le forcer.
Oui, c'est d'éviter de l'oublier. En fait, c'est quand même, c'est de l'oublier. On sait.
Yeah, it's okay.
Ça va t'arriver très souvent au début. Et la seule chose à faire, c'est au moment où tu prends conscience que tu l'as oublié, tu reviens sur le
Budo. C'est ce que je fais.
C'est l'exercice. Donc, c'est la seule chose que tu puisses faire. C'est comme l'enfant qui apprend à marcher, au moment où il tombe, il ne dit pas, oh, qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire. Non. Il recommence, il retente. C'est pareil avec le Budo.
Mais déjà, sur une période de pratique, depuis, en tout cas, je sens que depuis quelque temps, déjà, je suis beaucoup moins harcelé par des sujets intellectuels, des préoccupations, des soucis, beaucoup moins. Beaucoup moins. Le Budo revient beaucoup plus rapidement et facilement.
Mais ça fait combien de temps que tu pratiques le Budo?
Le Budo, ça fait pas très longtemps. Même avec Pat Nanachat, on ne travaille pas sur le Budo. On travaille en concentration.
Ce que tu dis depuis le temps, ça, c'est depuis combien de temps?
Je te dirais que depuis un mois, je vois un résultat. Le résultat, depuis un mois, je sens vraiment un résultat. Cloque. Oui, je l'oublie, cloque, je reviens.
Tout repose sur ta détermination. Et la détermination, c'est à chaque fois que tu te rends compte que tu n'es plus sur le Budo, de le ramener. Et c'est ça l'exercice. Là, ce n'est pas à se déterminer à forcer le Budo et à pousser le Budo. Toute la détermination et l'effort que tu vas mettre, c'est quand tu t'aperçois que tu n'es plus sur le Budo, de le ramener. Au moment où tu repars, tu le ramènes. C'est là où toute ta détermination et tout ton effort doivent aller.
Ça demande plus d'effort parce que le Budo nécessite l'énergie de la respiration. Alors que quand je vais me positionner ici, la respiration s'arrête. C'est comme si il n'y a plus de souffle.
Mais quand tu dis Budo, tu dis mentalement.
Oui.
Voilà, donc tu n'as pas besoin de la respiration.
Mais je fais le Budo. Et ça n'a pas de lien physique avec le inspiration, expiration.
Non, non. Tu peux le faire rapidement, comme disait Ajahn. Budo, 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 Budo. En fait, le seul moment où tu vas mélanger les deux, le Budo et la respiration, c'est quand tu n'arrives pas à faire le Budo tout seul. C'est trop difficile pour te concentrer juste sur le Budo. Dans ce cas-là, tu te concentres sur le Budo et la respiration. Budo sur l'inspiration et Do sur la respiration.
Je ne faisais que ça. Alors, avec le temps, ça devient chaleur.
Mais tu suis pas. Tu restes juste à un point. Tu suis pas la respiration. Juste bout sur l'inspiration et dos sur l'expiration.
Donc c'est... D'accord, moi je faisais vraiment le bout, dos, tu sais, tu vois, bout, dos, en me concentrant ici.
En me concentrant ici?
Oui.
Oui, oui, oui.
Bout, dos, en me concentrant là. Mais ce que je comprends, c'est qu'à un moment donné, on n'est que dans le bout, dos, bout, dos, bout, dos. Et la respiration va comme elle va. Il n'y a pas nécessairement... le bout et le dos en inspiration, expiration. C'est ça que je comprends.
Voilà, donc, tu fais ça. Et après, si le Budo, tu vois qu'il se décoordonne avec l'aspiration, juste tu l'observes. Juste observe le Budo.
D'accord. D'accord. C'est que ça demandait comme un effort de coordination. C'est quand le rythme cardiaque est plus rapide. Budo.
Oh, that's not good. That's not happy.
T'as juste trois méthodes différentes. Et les deux premières te mènent directement au cœur. C'est quand tu es juste avec le Budo, juste observe le Budo, ou quand tu observes juste la respiration.
En fait, c'est la citation, c'est Budo, 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 Budo. voilà. Tu le fais sans, mmh. sans considérer
voilà.
la respiration.
Ça, c'est la première technique. La deuxième, c'est quand tu te concentres juste sur la respiration. Et quand tu l'observes en mettant un point à l'entrée des narines, tu observes l'inspiration et l'expiration.
Sans citer le boudo.
Sans citer le boudo. Ça, c'est la deuxième. Et ces deux-là te mettent directement au cœur. Mais la troisième, tu l'utilises vraiment quand tu vois que tu as des pensées qui reviennent trop fréquemment, que tu n'arrives pas à
coordonner.
Là, tu coordonnes les deux. Boudo with breathing. Boudo avec l'inspiration et do avec l'expiration. Mais en tout cas, même quand tu utilises cette troisième chose-là, jamais tu contrôles la respiration. Tu laisses les choses se faire naturellement. Tu n'essaies pas de coordonner ou tu ne contrôles pas. Tu laisses la respiration telle qu'elle est. Et ça, c'est très difficile parce que tous ceux qui font un apanasati, donc la concentration sur la respiration, ils ont tendance à contrôler la respiration. Très dur de la contrôler.
La méditation se fait... Oui, il y a deux questions. Ok, on revient... Où est-ce qu'on se situe ? On visualise ?
Non !
Je ne sens rien.
Quand la chitta devient calme, ça va se faire naturellement. Le boudo va plonger dans le cœur. Mais en attendant, tu dois répéter le boudo, répéter le boudo, répéter. Et quand ça plonge dans le cœur, là, tu pourras juste l'observer. Tu observeras juste
ses répétitions. Qu'est-ce qui va me dire que c'est la chitta ou c'est mon imagination ?
Tu sauras. Donc, il y a un autre moyen pour trouver où est le cœur, pour que tu arrives à trouver où est le cœur, c'est d'écouter des discours sur le Dhamma, mais sans essayer de les comprendre.
Je ne les comprends pas.
Donc, Ajahn disait, quand tu écoutes des discours sur le Dhamma, que ce soit de Longta ou d'Ajahn Martin, quand tu écoutes des discours, juste tu te concentres juste sur les mots et tu mets ton attention sur le cœur. Et là, les mots, ils vont venir même avant que ça arrive dans tes oreilles. C'est comme si les mots, tu vois, ils jaillissaient un à un. Et tu n'essaies pas de comprendre. Tu te concentres juste sur les mots qui jaillissent un à un. Et quand tu arrives vraiment à écouter avec le cœur, tu vas même arriver à savoir le prochain mot qui va être dit, avant même que ce mot soit prononcé.
Donc il faut d'abord que la chitta soit ouverte.
Mais c'est l'entraînement, ouais. Si par exemple tu n'arrives pas à sentir ton cœur, oui, là tu vas avoir un entraînement corsé. Mais c'est l'entraînement. De toute façon, si on veut arriver à percer, il faut bien s'entraîner.
Le résultat de tout ça, en quelques mots, qu'est-ce que ça donne ? La lucidité ou la bonté ?
Donc, premièrement, oui, tu arrives à cette lucidité, cette connaissance-là. Et la deuxième chose, c'est que toutes les questions auxquelles tu te poses ont leur réponse. Même si tu ne les sais pas.
C'est l'intuition.
Oui. Donc, le résultat d'écouter ces discours-là, c'est que c'est pas forcément pendant le discours que tu vas savoir ça, mais c'est quand tu vas retourner à ta pratique, à un moment, tu vas savoir, ah tiens, ça, je dois faire ça comme ça. Ou ça, je dois faire ça comme ça. Parce que, au moment où tu as écouté le discours, le cœur, lui, il a compris, il a très bien compris ce qu'il devait faire. Et au moment où ça arrive dans la pratique, il saura prendre les bonnes décisions sur le chemin. Mais pour ça, tu dois y mettre ta confiance là-dedans, ta foi. Donc, Jeanne disait, c'est comme lui, pour lui, au début, quand il lisait des livres sur la mode, voilà, il y avait des parties ou des termes qu'il ne comprenait pas, donc ben, il passait et il continuait de lire. Tu dois faire confiance à ton cœur. Ton cœur comprendra, même si ce n'est pas encore le moment pour l'instant de l'ouvrir. Donc un autre entraînement que tu peux faire qui est très similaire à la manière d'écouter un discours sur le Dhamma, c'est écouter les sons, mais sans faire d'association, sans mettre d'étiquette.
Sans mettre de qualificatif, j'aime pas, c'est un bruit d'imbécile ou que c'est
non, un... Non, même, c'est un oiseau, c'est un chien. Même sans faire ces associations, c'est très difficile.
Après avoir écrit plusieurs mémoires sur la pollution sonore volontaire, j'ai travaillé sur l'impact de la pollution sonore volontaire. Ça, ici, en Thaïlande, ça n'existe pas. Mais en Occident, tous les gens qui modifient leur voiture, leur moto, les bruits dans le radio... Et à un moment donné, tu n'entends que... Ah, tiens, voilà quelqu'un qui a une dépendance affective qui essaie de se faire entendre. Voilà quelqu'un qui veut se faire remarquer. Et c'est devenu fou. À un moment donné, j'ai laissé tomber.
Et là, maintenant où tu es au Canada, dans la forêt, il n'y aura plus ces bruits-là.
Ça se rapproche toujours.
Donc c'est exactement ce que disait Ajahn Yeah. Plus tu t'es embourbé dans une direction et plus tu vas devoir mettre d'efforts pour te sortir de ce chemin-là. C'est ça qu'on appelle couper le conditionnement.
C'est l'une des différences qu'il y a entre la tradition chrétienne où est-ce qu'on va changer les choses, on va améliorer les choses, on va les faire, et dans le bouddhisme, on les accepte et ça ne m'appartient pas. La réalité est extrême. Tu comprends? C'est un réflexe très chrétien.
C'est très difficile de ne pas faire ça. C'est pas seulement pour les chrétiens que c'est difficile, mais aussi pour les bouddhistes.
Mais ça m'a rassuré beaucoup ce matin de savoir, en fait, que, comme je te disais, je trouvais très... Je comprenais mal le système dans le sens qu'on est dans ce 8-là et on fait de bonnes choses, on travaille, il y a beaucoup d'efforts pour revenir dans une vie d'imbécile. Non, en fait, la citta is permanent. Mm-hmm. The citta is permanent. Et life after life, the citta is growing, and after I don't know when, it's finished, you go out the system.
No.
I don't make effort and I go eat a pizza.
Yeah, yeah. Yeah. That's laziness.
Oui, ça c'est la flemme. Si tu vas.
Qu'est-ce que ça veut dire la flemme? C'est français, it's a French word.
Oh, fainéantise.
Non, mais quand tu ne vois pas le but, si tu t'en sors pas de ce cycle-là jamais, alors pourquoi pratiquer? Je vais aller manger de la pizza et je vais rencontrer plein de filles. Comprends pas. Si on ne sort jamais de ce 8-là de souffrance, alors pourquoi faire tant d'efforts et ne pas profiter au maximum des plaisirs et minimiser au maximum la souffrance? Est-ce que tu comprends?
Ouais, mais toi, c'est quoi qui a changé? Tu disais que j'étais agréablement surpris de comprendre que...
On sortait de ce...
Parce qu'avant, tu pensais qu'on ne sortait pas, c'est ça?
C'est ça. J'ai cru que oui, qu'on en sortait, mais quand j'ai entendu dans les derniers jours que c'était enfer, paradis, qu'on restait dans ça. Et c'est pour ça que j'ai eu quelques heures entre avant hier et ce matin où est-ce que j'ai dit, oh, mais merde, on s'en sort pas, alors qu'est-ce que je fous ici? Mais là, oui, on s'en sort.
On s'en sort si on fait l'effort.
Ah, ça, on est là pour ça.
Ok. Donc, c'est ça que le Bouddha est venu. C'est parce qu'il est venu et il nous a montré, oui, il y a un chemin pour se sortir de ce cycle éternel, ce grand cycle, mais il va falloir mettre beaucoup, beaucoup d'efforts pour s'en sortir.
Mais ces efforts-là s'accumulent d'une vie à l'autre par la pratique.
Donc les choses vont s'accumuler, mais si tu fais l'effort, vie après vie, de continuer la pratique. Si par exemple, tu passes une vie, tu pratiques très durement, donc là, ça va s'accumuler progressivement, et que la vie d'après... Tu décides de juste apprécier les plaisirs. Tout le capital que tu as fait là, il ne va pas disparaître, il n'y a rien qui disparaît, mais il ne va pas augmenter, parce que tu ne vas pas faire d'efforts pour continuer dans ce sens-là.
Ce ne serait pas le karma, à la limite, qui fait que tu n'en fais pas d'efforts, parce que tu n'es pas né dans le bon pays, dans la bonne
famille. Calm down. Je finis juste avec l'exemple. Juste pour donner, parce que c'est un bon exemple. Par exemple, donc construire le chemin pour aller à Nibbana, c'est comme construire une sala, d'accord? Donc imagine un jour tu décides, on va construire une grande sala, donc tu commences à travailler dessus, au début tu enlèves la terre, tu commences à faire les fondations, tu coules le ciment, tu as fait tout ce travail là, et à la fin tu te dis, bon, c'était fatigant, maintenant je vais me reposer, prochaine nuit je me repose. Tu te reposes, et la vie d'après tu dis, allez, on va continuer la construction. Bon, mais quand tu vas revenir, il ne faudra pas recommencer à zéro. Les fondations seront encore là, mais ça va quand même commencer à craqueler. Donc, tu n'auras pas tout à refaire. Les fondations sont là, mais tu auras quand même un travail de rafistolage avant de continuer. Et c'est exactement pareil avec la pratique. Tu vois, un autre bon exemple, c'est Adjan, il pouvait parler couramment français il y a 35 ans. Et maintenant, vu qu'il n'a pas pratiqué, il comprend un peu, mais il ne peut pas parler. Et donc... Il n'a pas tout à reprendre à zéro, mais il va devoir mettre, s'il voulait parler français, il devrait mettre de l'effort d'abord, et là, pour toute sa pratique d'avant, reviendrait. Donc, par exemple, s'il voulait que son français revienne, mais il devrait mettre de l'effort pendant 3, 4, 5 mois, et là, ça reviendrait. Et donc, c'est pareil avec la construction de...
I understand, you know what is problem.
Et donc, c'est comme avec la construction de la statue. Et c'est pareil avec la pratique. Et tu vas devoir refaire quand même de l'effort pour reconsolider. Les fondations restent, mais tu dois la reconsolider. Et une fois que c'est ça, là, tu peux continuer à construire au-dessus. C'est pareil avec tout comme ça. C'est... Alors pourquoi tu as de la résistance là-dessus?
Ce n'est pas vraiment...
Tu veux l'avoir facile.
A torpor, oui, ouais, c'est le mot, ouais, la torpeur. Oui et non, mais c'est que, par exemple, dans la vie que je faisais quand j'étais enseignant, j'avais beaucoup d'amis, et avec qui j'avais beaucoup de plaisir, et on se donnait, on avait bien du plaisir ensemble, on avait des activités, une vie laïque où est-ce qu'on on fait plein d'activités et qui peut devenir enrichissante aussi. Et on peut avoir une vie laïque qui est aussi très, très enrichissante aussi. Et on peut avoir une vie d'ermite qui peut être très malheureuse aussi, quand on se prive sans voir clairement le but. Mais moi, mon but, c'est le calme. Je veux juste prendre les dernières années de ma vie pour passer à autre chose. Je me pose pas plus de questions que ça, moi.
Okay.
Mais il y a moyen de faire une vie laïque et tout en s'épanouissant aussi.
Mais tu devrais pas juste avoir ça, juste se reposer sur ce calme-là. Tu devrais aussi acquérir de la sagesse. Parce que la sagesse, c'est la seule chose qui te permettra de sortir.
Oui, I know, exact. But when you live in this place, you don't have many chances to practice de la sagesse, parce qu'on n'est pas confronté ici à des difficultés.
Ah, tu dis qu'il n'y a pas de... Qu'est-ce que tu dis?
Moi,
ici,
je trouve même que on a plus d'occasions de travailler sur soi, sur ses illusions, quand on est dans la vie laïque avec un paquet d'imbéciles.
That is an illusion.
Ça, c'est une illusion. Donc ça, si tu vis dans le monde, tu peux arriver à gérer plein de situations et plein de problèmes et arriver à les enlever, tous ces problèmes-là que tu vas rencontrer dans ta vie. Mais tu vas pas déraciner, tu vas pas enlever la racine de ces problèmes-là. Et donc, au bout de quelques années, d'autres problèmes, donc les mêmes problèmes vont revenir et tu vas redevoir les gérer, redevoir exact. Les enlever.
Exact.
Parce que t'as pas encore touché à la racine. Et ici, quand on vit ici dans la forêt et la pratique qu'on fait, ça va être d'enlever la racine de ces problèmes-là. Et après, une fois que t'as enlevé la racine, il n'y a rien non plus. Donc le problème, on vit ici pour éviter toutes ces perturbations et ces problématiques extérieures, pour se concentrer sur les deux choses, l'avidité et l'aversion. Et ça, tu peux pas arriver à le faire. Parce que quand tu vis dans le monde, à chaque fois que tu auras de l'avidité, tu vas avoir un objet pour y aller. Et pareil, quand tu vas avoir de l'aversion ou de la haine, tu auras toujours une personne sur laquelle tu pourras la reporter. Mais ici, quand tu vis en forêt, eh ben, y a juste des arbres. Alors, et toute ton avidité et toute ta haine, elles vont aller vers les arbres. Tu peux aimer ou détester un arbre, mais au final, ça n'a pas de sens. Donc à chaque fois, ça va repointer vers toi-même. C'est pour ça que la forêt, c'est l'université, là où on apprend. Donc c'est ça, c'est vraiment les mots du Bouddha. Il a envoyé ses bhikkhus, il a dit, là il y a des forêts, là il y a des grottes, là il y a des places, des endroits solitaires. Et là où ces gens, les gens du monde, ne vont pas dans ces endroits-là, ils n'aiment pas ces endroits-là.
Je comprends très bien.
Et c'est là que tu dois faire le travail.
Mais, funny question, les forêts sont de plus en plus rares et de plus en plus petites. Qu'est-ce qu'on fait?
Bah ici. Donc, pour revenir à ceci, voilà. Là, ce que dit le Bouddha, c'est que même un sotapanna, il va quand même continuer dans le cycle, au moins pendant cette vie. Et en haut, en bas. C'est là que tu peux voir avec cet exemple à quel point c'est difficile de sortir de ce cycle. Parce que même un sotapanna qui a vu le Dhamma, mais même, ça va lui demander au maximum 7 vies pour s'en sortir. Il aura encore l'envie d'avoir des femmes, l'envie d'avoir des enfants, une famille. Il aura encore beaucoup d'attachement à son corps. Donc ça montre à quel point c'est difficile de se sortir de ce cycle. Et donc imagine comme c'est encore plus difficile pour quelqu'un qui n'est pas sotapanna. Juste un être humain ordinaire.
Moi, c'est pas tant de ne rien avoir. Tout au contraire, j'ai beaucoup de plaisir à avoir le moins de choses possible. Je vis dans des conditions comme les vôtres en Canada.
Mais t'as un problème qu'on n'a pas. C'est la cuisine.
Exact. And it's a,
et donc du coup aller faire du shopping.
Je pense comme oui.
Parce que là, quand tu fais ces activités-là, tu vois pas, mais qui les a sont sortis. C'est pour ça que pour nous, le Bouddha a dit qu'on on devrait pas cuisiner le bhikkhu. On doit juste prendre ce qu'il nous est donné.
Je comprends.
Mais je suis saoté. It's saoté.
Le Dhamma est tellement quelque chose de profond. Pour l'instant, tout ce que tu peux voir là, c'est juste le, comme un iceberg, juste le sommet.
Je sais, j'en suis sûr. I know.
Donc, et le Bouddha, c'est le seul à pouvoir voir dans son intégralité tout le Dhamma, à voir ce qui était bon, ce qui n'était pas bon, ce qui était bénéfique sur le chemin.
Favorable ou défavorable.
Favorable ou défavorable. Mais lui, tout ce qu'il pouvait faire, parce qu'il voyait qu'il y avait tous ces êtres qui allaient en haut, en bas, en haut, en bas, et beaucoup qui n'avaient pas la volonté, l'intention de s'en sortir. Donc lui, tout ce qu'il pouvait faire, c'était juste donner ce chemin et dire, pour s'en sortir, il va falloir faire ça, mais ça ne va pas être facile, il va falloir beaucoup d'efforts.
Une question sans réponse, mais pourquoi avoir besoin de faire tant d'efforts?
Imagine, prenons un exemple d'un héroïne, quelqu'un qui est addict à l'héroïne pendant 7 ans, et qui, sur la 7e année, il va prendre la décision d'essayer de s'en sortir. Et rien qu'avec cet exemple-là, s'il veut vraiment s'en sortir, il va frôler la mort. Et pas qu'une fois. Yeah. Et donc, nous, notre problème, c'est qu'on est addict à la vie. Et c'est pas juste cette vie, c'est des milliards. Des milliards de vies. C'est ça notre addiction.
Comprends?
Oui. Je comprends. I understand everyone. But, je n'ai pas. Là n'est pas mon problème. Je n'ai pas d'addiction énorme.
Pas encore. Si tu ne le vois pas encore. Pour l'instant, tu vois juste le petit sommet. Tout ce qui boue là-dessous, là, et que tu ne vois pas, tu peux vraiment pas imaginer.
À quel Parce point que c'est je ne suis pas encore dans une vie monastique close.
Non. C'est ce que beaucoup de gens pensent. Et même à Jan, avant, il pensait la même chose.
It's okay.
Il pensait que c'était ok. Il a vécu pendant 6 ans cette vie-là de monastique, mais sans être, du coup.
Donc c'est dans la vie de bhikkhu que les désirs... La vie de bhikkhu fait naître les désirs.
Donc effectivement, la vie de bhikkhu va les mettre en avant, parce que tant que tu es dans les addictions, mais tu ne vois pas que tu as cette addiction, mais au moment où tu coupes et tu l'interdis, cette addiction-là...
Par les préceptes.
By the precepts, so when you... Par les passettes, et bien là, ils vont venir parce que tu as coupé cette addiction-là, donc là, tu vas les voir, et tous ces désirs-là. Pour l'instant, ils sont juste comme dessous, endormis, et tu les vois pas, ils sont juste dans ce gros bloc, ce gros massif bloc que pour l'instant, tu n'as pas accès. Mais ils sont là, et pour l'instant, ils sont pas visibles. Après 3 mois de vie de bhikkhu, et si par exemple, tu n'as pas toutes ces choses-là, tu as juste de l'eau, etc., et bien là, tu vas avoir commencé à avoir de l'avidité pour tout un tas de choses. Et donc Ajahn disait, pour l'exemple, lui quand il était avant d'être bhikkhu, jamais il aurait touché un coca ou quelque chose comme ça, mais après quand tu deviens bhikkhu, tu commences à imaginer et à avoir des envies, tout un tas d'envies que tu pouvais pas imaginer avant, que tu n'avais pas avant. Est-ce que quand t'es dans la vie de laïque, tu peux toujours te dire non, mais tu penses, si j'en ai envie, je peux l'acheter? Mais nous, quand t'es en tant que bhikkhu, non, tu peux pas.
Ok, j'avais jamais vu ce côté-là. But when you like, you work in the shopping center and you have a money for buying a thing.
Yeah.
And you don't know.
Ça c'est vrai. Mais au moment où tu coupes ça, au moment où t'as plus l'argent pour t'acheter toutes ces choses-là, là, t'as toute l'envie qui arrive. Alors être ordonné, il en avait marre d'avoir une petite copine et il voulait pas d'autres. Mais après l'ordination, à un moment, ça arrive et tu rêves plus que de ça. C'est pour ça que dans la tradition, on utilise les 13 doutangas, les 13 pratiques ascétiques, c'est pour aller chercher des choses encore plus profondes et qui les a encore plus profondes dans ce gros bloc pour les faire remonter à la surface. Donc, il pensait comme toi avant. Il disait, c'est quoi le but vraiment d'ordonner? Lui, il voulait pas être un bhikkhu. Il vivait une vie.
Just want to practice.
Il voulait juste pratiquer. Et lui, il voulait pas devenir bhikkhu. Non, il dit quoi? Mais quand il a vu Longta, là, voilà, ça devait être une des bonnes raisons pour lui d'abandonner, quand il a vu l'exemple de Longta.
Mais j'ai l'intention de faire le maximum possible dans les limites de mes capacités. Est-ce que tu comprends la question?
Bien. Ça va, c'est propre.
Donc, où est le problème? Mais ce que tu dois avoir, c'est que tu dois avoir un but. Si tu n'as pas le but de briser et de sortir de ce cercle-là, alors, même avec toutes tes capacités et mettre le maximum d'efforts que tu peux, hein, y a tellement de chemins où la méditation peut te mener. Si tu n'as pas de but, il n'y en a qu'un seul chemin qui mène vraiment à sortir du cycle.
Je comprends. Mais mon... sortir du cycle est aussi un désir, mais un désir noble. Mais ce désir-là, je l'ai à 100%.
Lequel?
De sortir de ce cycle. Moi, je n'ai plus... s'il y avait une prise de courant, un interrupteur pour passer à l'autre étape tout de suite, sortir de ce cycle-ci, moi, j'ouvrirais la fusée tout de suite.
Et tu peux le faire. Jan, t'as donné les indications pour le faire hier. Dans le discours.
Je l'ai écouté.
Et Ajahn dit que c'est pour ça que, dans son discours, d'un coup, ça a changé de sujet. Il parlait d'autre chose, et puis hop, d'un coup, dans son discours, c'est venu sur comment sortir du cycle.
Ça fait 4 ans que je travaille à... Couper, mais c'est long.
Ajahn, lui, pendant 2 ans, ça lui a pris de couper toutes ces choses-là.
C'est
la même chose. Donc, bien que ce soit les désirs qui créent la dukkha, le désir sera la chose qui tombera en dernier. Et donc, s'il y a certains nobles désirs, comme celui de sortir du cycle, ce désir, il va falloir que tu le fasses, que tu l'entretiennes bien.
Ah, il est très permanent.
This desire is quite permanent.
Mm-hmm. Yeah, it's not a problem for this desire. Mais en attendant, c'est le calme. Trouver, créer, sortir de ces sujets toxiques-là dans lesquels j'ai eu à travailler 15 ans. Et le calme.
Tu veux dire avant de sortir du cycle?
Avant de mourir, en fait. Hein, parce que je vais y en sortir du cycle dans je ne sais pas combien de vies. Ça ne sera pas dans cette vie-ci. Mais d'ici la fin du fonctionnement de l'animal, l'objectif, c'est d'avoir le minimum de contact avec la société, de créer le moins de désirs possible et d'être le plus possible dans le calme.
Ajahn demandait comment tu sais que c'est pas dans cette vie-là que tu vas trouver le chemin de la sortie.
Dans cette vie-ci?
Ah. Au moins, tu peux faire le point de départ.
Oui.
Sur ta panne.
Oui, je vais faire le point de départ.
You want and you
mais
will
je n'ai
do
pas.
It.
Je vais me contenter de ce qu'il y a, mais je veux avancer.
Si tu prends le bon chemin et que tu mets de l'effort, là, ça pourra se produire. Et le bon chemin, c'est si là, ça m'a dit Pania. Et Pania, une fois que tu arrives à trouver le calme, c'est l'investigation du corps. Donc, Ajahn prend l'exemple de l'odeur, d'où elle vient l'odeur. Il dit, elle vient de la peau. Et il dit à Jenny, fais l'exemple, ne te douche pas pendant 15 jours. Et là, quand tu fais cet exercice-là, tu vois tous les odeurs dégoûtantes qui viennent dessus.
Mais en même temps, on revient à Suba, l'idée de, par le déplaisir, pas le déplaisir, par...
Le dégoût.
Le dégoût, d'accord. Par le dégoût, voir la réalité par le dégoût. Mais, moi je n'ai pas ce dégoût-là. Quand je vois un cadavre se faire brûler, je n'ai pas le sentiment, je suis plus dans « waouh ». Quand j'ai l'odeur, ce n'est pas... C'est plus... C'est cette odeur. Mm-hmm.
Ça peut vouloir dire deux choses.
Oh, ok. C'est...
Donc ça veut dire deux choses. Première chose, c'est si tu as fini la contemplation du corps et que tu es anagami. Mais ça, tu le saurais. Si c'était le cas. Okay. Et la deuxième chose, c'est que pour l'instant, tu n'y as pas accès à cette chose-là. C'est même la chitta, mais tu n'y as pas accès. Donc, comme je disais, ça, c'est une réaction naturelle des gens. Quand tu vois des excréments, ou même quand tu parles du sang, etc., la réaction naturelle des gens, ça va être de se sentir dégoûté. On n'a pas besoin de créer le dégoût. Le dégoût, il est là, naturellement. Mais pour certaines personnes, par exemple, les chirurgiens qui travaillent là-dedans, ben eux, quand ils vont voir ça, « Ah ouais, tiens, je peux réparer ceci. » ils vont voir ça dans notre œil. Mais ça ne veut pas du tout dire qu'ils ont fait de la contemplation du corps, ou ça ne veut pas dire qu'ils ont fini le travail de contemplation du corps. Au contraire, ça veut dire qu'ils ont créé un bouclier qui ne leur permet pas de voir, de ne plus voir ce dégoût-là. Et pour ces personnes-là qui ont travaillé dans le domaine médical, c'est encore plus difficile la pratique d'Asuba. C'est encore plus difficile d'avoir accès à ce dégoût.
Oui, mais ce qui est dégoûtant... pour certaines choses, pour certaines personnes, c'est dégoûtant. Pour certaines autres personnes, ça ne l'est pas. Le beau, le laid, c'est aussi très relatif.
Alors, pour parler de toi, est-ce que tu n'as aucune haine? Est-ce que tu n'as aucune irritation?
Non, j'en ai.
Donc, ça veut dire que tu n'as pas fini la contemplation du corps. Donc, effectivement, dans le monde, tu vas voir des gens qui aiment ceci et qui détestent cela, et d'autres qui vont aimer d'autres choses et détester d'autres choses. Mais tout le monde aura ce mécanisme d'aimer ceci et de détester d'autres choses. Mais quand on va parler du corps, là, quand on va regarder ce qui est à l'intérieur, là, tout le monde va le trouver dégoûtant. Et la première fois... qu'un chirurgien ou qu'un médecin va ouvrir un corps ou qu'il va assister à une autopsie, tous, ils vont avoir la même réaction. C'est soit ils vomissent ou soit ils tombent inconscients. Tous. Et c'est juste après, par l'habitude, ils vont s'habituer à ceci, à cela, et en le faisant encore et encore, ils vont travailler sur un corps comme ils travailleraient sur une voiture. Parce que ils ont construit cette protection, ce bouclier qui les empêche de voir.
Donc pour un pratiquant d'Asuba, ça reste toujours dégoûtant.
Donc non, mais quand tu commences la pratique d'Asuba, là, quand tu veux vraiment rentrer dans la pratique, tu vas vraiment sentir du dégoût jusqu'à avoir envie de vomir pendant la pratique, et plus tu vas continuer dans la pratique, et le dégoût va diminuer, mais il sera encore toujours là, différent, mais il sera encore toujours là, jusqu'à ce que tu finisses la contemplation du corps. Et là, il ne sera plus là. Donc là, je prenais l'exemple de ce matin, quand j'ai regardé la crémation du chien. Et bien, il y a eu un sentiment d'irritation qui est venu, mais il n'avait pas identifié que ça venait de ça. Et il a trouvé une excuse pour partir et ne plus regarder ça. Mais Adjan a vu qu'il avait sentiment d'irritation, et il lui a dit de retourner contempler le chien. Et ce que Rich a vu, c'est que l'irritation qu'il sentait, elle était envers les autres gens. Il reportait son irritation envers les gens. Et ça, il a pu le voir clairement qu'après. Et donc, c'est pour ça que Adjan, quand il enseigne à Asuba, souvent, il avertit les gens, il dit attention, cette pratique va créer de l'irritation. Donc, surtout, ne la reportez pas sur les autres. Ça crée de l'irritation parce que là, tu enlèves le jouet préféré des Kilesa.
Qui est l'apparence, qui est... Qui...
Which is the appearance.
L'agréable. Yeah. Mm. Comment commencer à Asuba?
Un exercice que tu fais au début, c'est tu coupes partie par partie. Tu coupes ton pied gauche, tu mets devant toi, ton pied droit, tu mets devant toi. Tu fais pareil avec les mains, tu regardes à l'intérieur, tu coupes, tu regardes à l'intérieur, tu mets devant toi. Tu fais ça partie par partie. Et après, tu poses la question, laquelle de ces parties, laquelle de ces composants est le corps? Et c'est quoi qui est assis ici, quand toutes les parties du corps sont devant toi? Mais pour ça, tu dois le visualiser. Toute la pratique d'Asuba, c'est de la visualisation. Donc pour entraîner la visualisation, ce que tu peux faire, c'est que tu prends des images de cadavres ou des images dégoûtantes, tu les regardes pendant 5 minutes, et après tu fermes les yeux et tu reproduis cette image-là à l'intérieur. Jusqu'à arriver à la voir et avoir une visualisation claire.